Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Je veux savoir où est la femme.
Ne la cherche pas, elle n'est pas ici.
Si tu ne me le dis pas, j'attaque les gens et je leur fais mal.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin durant laquelle nous reviendrons sur Bides et Châtiments, Bides et Châtiments, parce qu'il y a plusieurs Bides et plusieurs Châtiments évidemment, de Kevin Bertrand Colette, paru chez Inis Éditions. Nous parlerons également du Slugs de Sean Hudson, qui ressort dans une nouvelle traduction préfacée par l'auteur dans la collection Compact Horror chez Faute de Frappe Éditions. Nous resterons chez Faute de Frappe Éditions pour aborder Clito Vidéo de Denise Dildo. Et puis on s'entretiendra avec l'auteur. Et oui, car Denise Dildo est un pseudo, mais vous le savez tous, c'est David Dildo. Donc on en profitera aussi avec David Dildo pour évoquer Érotique Bazar Chronique de l'Alcôve numéro 4, spécial Jessica Rizzo. L'équipe de Culture Prohibée remercie Marc Falvo ainsi que l'équipe des éditions Inis pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie bouquin, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut GG, et bien évidemment bonjour à toutes les lectrices qui nous écoutent.
Mon cher Thomas, tu es venu avec sous le bras des Bides et des Châtiments, j'ai cru comprendre, signé d'un certain Kevin Bertrand Colette, et des Bides et Châtiments qui sont parus donc chez Inis Éditions.
Et non, Bides et Châtiments n'est pas une version expurgée, passée à la moulinette du puritanisme ambiant du roman de Dostoïevski, Crimes et Châtiments. N'y voyez pas de rapport. Il s'agit d'un livre de cinéphiles pour les cinéphiles, mais aussi pour les autres, ceux qui ont envie de découvrir des films pas forcément bons, qui peuvent se révéler bancals faute d'être bankable, ou qui ne rencontrent pas, ou qui ont du mal à rencontrer leur public. L'auteur, donc, comme tu l'as dit, Jérôme, c'est Kevin Bertrand Colette, et il explore donc sa cinéphilie déviante à travers des chroniques qu'il a rassemblées en un volume. Le sous-titre de Bides et Châtiments est « Les grands naufrages du cinéma », tandis que le quatrième de couverture évoque des nanars. Le terme fait débat aujourd'hui, certains y voient l'expression d'un certain mépris, alors que d'autres trouvent leur plaisir à fouiller dans une histoire parallèle du cinéma. Chose à laquelle se prête avec érudition Jean-François Roger à la Cinémathèque française, un certain vendredi soir de façon mensuelle. Seulement ici, les films recensés ne sont pas que des nanars. Car aux côtés de The Apple, de Menahem Golan, ou de Piranha 2 de James Cameron, ou encore de Bon Baiser de Hong Kong de Ivan Schiffre, grand film des Charlots.
Avec les Charlots, voilà. et la sosie de la Reine d'Angleterre, voilà. Magnifique.
On reconnaît les cinéphiles,
exactement.
Ils sont dans le studio. On peut aussi trouver, aussi incongru que cela puisse paraître, Femme Fatale de Brian De Palma ou Heaven's Gate de Michael Cimino. Pour des raisons évidentes, ce ne sont pas des nanars. Enfin, pour moi, Femme Fatale n'est pas un nanar. C'est un exercice de style. Heaven's Gate, c'est pas forcément parce que c'est un nanar, mais c'est parce que, c'est pour les raisons qu'on sait, il a ruiné la United Artists.
Alors, tu fais ton cinéphile là, parce que ce film a un titre français quand même, La Porte du Paradis. Voilà.
Bon, c'est vrai. C'est vrai.
Ah ben, c'est petite vengeance. puisque monsieur n'aime pas les charlots.
Ah, mais tu sais, j'ai d'autres goûts déviants. Hein. Il ne s'agit pas de se gausser des films qui sont traités dans ce livre « Bites et châtiments », mais de les évoquer avec amour et humour. Le livre est richement illustré avec quelques anecdotes dans les différents textes dont il est constitué. Cependant, attention, il y a un piège. Il y a une chronique qui est écrite par un autre rédacteur. Alors, toi, auditrice ou auditeur, elle n'est pas signée, cette chronique. Sauras-tu la deviner ? Sauras-tu deviner de quel film il s'agit, de quelle chronique il s'agit ? Mais qui d'autre que Kevin Bertrand Colette pour nous conter comment est né ce livre et préciser ses choix de films qui peuvent paraître tous aussi incongrus les uns que les autres.
Kevin Bertrand Colette, vous êtes l'auteur de Bites et châtiments. Comment est né ce projet ?
Alors, en fait, je suis un ancien journaliste de Mad Movies. Je suis rentré à l'époque où Jean-Pierre Puters avait décidé de passer professionnel, puisque Mad Movies était avant un fanzine qu'il faisait dans sa cave pendant ses heures libres à côté de sa véritable profession. Et donc, en 81, si je me rappelle bien, il a décidé de passer en kiosque. Et à ce moment-là, moi, j'étais déjà lecteur. Je venais d'arriver à Paris, puisque je suis originaire du sud de Nice. Et je suis remonté à Paris pour faire mes études supérieures. J'étais déjà cinéphile, donc dès que je suis arrivé à Paris, je me suis mis à écumer les librairies de cinéma, dont Movie 2000, qui était en fait la première rédaction de Mad Movies, où j'ai rencontré Puters en chair et en os. Il m'a engagé. Il m'a pris sous son aile, parce qu'à l'époque, il ne payait personne. Donc voilà. Et moi, j'étais tout content de pouvoir faire mes premières armes. J'étais encore lycéen. Je savais qu'ensuite, je voulais faire une fac de cinéma et de journalisme. Et il m'a mis un peu le pied à l'étrier, quoi, pour apprendre à écrire et à critiquer les films. Et donc, comment est né le livre ? Ben, en fait, j'ai toujours beaucoup plus aimé les productions un peu casse-gueule, un peu brinque-ballante, les films bis italiens, les petits producteurs indépendants, que les grosses prods Made in Warner, Made in MGM et tout ça. Parce que je trouve, bon, Edune, il y a le côté artisanal qui me plaît beaucoup plus, le côté bidouillage où les petits essayent de faire comme les grands avec un dixième du budget nécessaire. Donc ce côté bricolo m'a toujours plu et dès que je suis arrivé à Paris, je me suis mis à écumer les salles de quartier pour visionner tout ce que je pouvais. À l'époque, il y en avait plein, notamment dans le 11e et dans le 10e, qui ont quasiment toutes disparu à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu cinéphile, que j'ai rattrapé parce que, donc, comme je disais, je venais d'un petit patelin au-dessus de Nice où on avait un cinéma municipal avec une salle qui changeait à peu près de film tous les mois. Donc c'était assez dur pour rassasier ma fin de film, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc l'idée de parler c'est pas des mauvais films, c'est des films, encore une fois, qui sont pas à la hauteur de leurs ambitions, on va dire. Je traîne ça en moi depuis des années. C'est toujours le type de cinéma que j'ai voulu défendre. Et quand j'ai présenté le projet donc à l'éditeur Inis il y a un peu plus de 2 ans, coup de bol, ça leur a plu. Puisqu'il faut savoir que Inis a été créé par un ancien journaliste, bon, dont le nom m'échappe, donc ils ne vont malheureusement pas me demander son identité, mais qui a gardé un certain amour aussi pour le cinéma parallèle, enfin cinéma bis, comme on dit. Et donc il a approuvé le truc et je me suis collé à mon traitement de texte et j'ai rédigé tout ça donc sous forme, c'est un espèce d'abécédaire on va dire, puisque je traite par thématique des premiers films qui me sont venus à l'esprit, enfin qui m'ont marqué durablement, par leur côté encore une fois fait de briques et de broc et que je trouve moi plutôt rafraîchissant encore une fois par rapport au cinéma actuel. Qui pour moi ne m'intéresse plus trop vraiment. Voilà.
J'imagine qu'il y a plein de films du genre que vous affectionnez, que vous aimez, etc. Alors, mais comment vous avez fait votre sélection ?
Alors, il faut savoir que j'ai une petite marotte. C'est que depuis que je vais au cinéma, je garde les tickets de Cinoche et j'écris au dos le jour de le titre du film que j'ai vu, le jour du visionnage. Je fourre tout ça dans un sac, donc j'ai un gros sac comme ça de tickets. J'ai un peu pioché au hasard, pour être tout à fait honnête. Après, j'ai essayé de retrouver les salles de quartier que je fréquentais, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé à Paris, il y avait encore le Colorado, il y avait encore toute la la rue Saint-Denis, enfin une bonne partie, il y avait encore pas mal de salles, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus que le Brady qui a survécu et qui n'est plus du tout, enfin qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc j'en ai profité. En fait, je lisais beaucoup tout ce qui. Enfin, il n'y avait pas tellement de revues de cinéma, il n'y en avait même pas du tout de revues de cinéma fantastique dans la. Milieu des années 70 jusqu'à ce que Mad Movies arrive. Donc je me rabattais sur les Creepy et les Vampirella qui avaient des cahiers ciné qui étaient assez costauds, qui me faisaient baver d'envie. Donc j'ai recherché ces films-là dans un premier temps. Et ensuite, tout bêtement, je me suis mis à acheter l'Officiel des spectacles et Pariscope que je décortiquais toutes les semaines pour voir encore une fois dans les salles de quartier ce qui allait passer. Bon, il faut bien préciser que les pellicules étaient dans un état horrible, c'est-à-dire parfois il manquait même une bobine, donc on ne comprenait rien au film, mais j'étais heureux parce que je pouvais enfin voir le film qui m'avait fait rêver quand je voyais des photos dans des canards à droite et à gauche, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc pour résumer, ce que je dis d'ailleurs dans l'intro du bouquin, j'ai toujours préféré voir un film relativement mal fichu, mais fait avec amour, fait avec des gens qui croient en leur projet, qui n'ont pas forcément le budget pour, mais qui essayent de tout faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Même si le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, moi ça m'a toujours plus intéressé que de voir un blockbuster à la Jerry Bruckheimer ou ce genre de truc, quoi, tout simplement.
C'est un livre qui est compartimenté en thématiques.
Exact. Ça n'a pas été facile d'ailleurs, parce que notamment, autant l'avouer, il y a un chapitre que je qualifierais de fourre-tout, puisque je ne savais pas quoi mettre. En fait, c'est là-dedans que j'ai glissé le Perfect avec Travolta, que moi j'ai mis dans la catégorie des nanars. Alors, il ne faut pas oublier que, comme c'est moi l'auteur, quelque part, je suis juge et partie. Donc si ça se trouve, certains films qui me font hurler de rire, des lecteurs vont être horrifiés en disant « Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre, pourquoi est-ce qu'il l'a foutu dans un bouquin pareil ?» Mais encore une fois, moi, c'est ma réaction première en tant que spectateur quand j'ai découvert le film. Je parle aussi d'une époque où on n'était pas, noyé sous la publicité virtuelle avec le net et tout. Aujourd'hui, un mois avant qu'un film sort, on sait quasiment tout du film en question, jusqu'à la fin, ce que je trouve détestable. Mais à l'époque, on avait quasiment, à part les revues et les hebdos, on n'avait pas d'autre moyen de se renseigner sur les films. Donc voilà, j'ai pioché dans ma mémoire. Je suis allé revoir, puisque la plupart des films dont je parle dans ce bouquin, je les ai en Blu-ray. Donc j'en ai revisionné plein, j'en ai sélectionné quelques-uns. D'autres qui, si l'éditeur et si Dieu le veut, feront l'objet d'un second tome, on verra bien. Mais c'est uniquement de l'affect, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de critère qui soit foncièrement objectif. C'est juste l'auteur qui a décidé que ce film-là lui plaisait, donc il va lui en parler. Enfin, il va en parler au lecteur pour essayer de lui faire comprendre que finalement, c'est pas si nul et qu'il faut tenter l'aventure et se plonger dans ce cinéma qui est vraiment. Qui a quasiment disparu de nos jours. Des séries Z, même les Italiens n'en font plus. Quoi. Donc voilà, c'est un monde qui a disparu.
Dans la préface, il y a le mot nanar et navet qui reviennent. Le mot nanar fait aujourd'hui débat parmi les cinéphiles. Est-ce qu'on peut qualifier. Est-ce que ne trouvez-vous pas. Il y en a qui pensent que c'est méprisant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, j'étais un petit peu de cet avis au début. Effectivement, je trouvais que c'était condescendant, on va dire, de traiter des films de nanars. C'est un terme que moi, j'utilise personnellement très rarement, même dans le bouquin, d'ailleurs. Je crois qu'à part la préface, je ne me permets pas de traiter ces films de nanars. Encore une fois, je vais dire, c'est peut-être très français, comme parce que essayer de trouver un équivalent du mot nanar en anglais, on dit turqué pour des films qui sont mauvais, mais il n'y a pas ce côté vraiment condescendant, quoi. C'est ça le problème. Je suis plus intelligent que le réalisateur, donc je me permets de juger du haut de mon piédestal. Je trouve ça nul et je vais le descendre. Aussi bizarrement que ça puisse paraître, avec le temps qui est passé, j'ai considéré que mon métier de critique n'avait strictement aucun intérêt. Parce qu'en fait, tout le monde est son propre critique. Et je commence à croire que essayer d'influencer les gens pour leur dire que tel film ou tel autre est bon ou n'est pas bon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé quelque part. Je me suis dit qu'il vaut mieux laisser le spectateur jugé par lui-même. Quoi. Bon, il aura peut-être foutu de l'argent par les fenêtres en allant voir tel ou tel film, mais il n'aura pas été influencé par une pensée extérieure. Et encore une fois, c'est très paradoxal, puisque j'ai été critique, je préfère d'ailleurs le dire au passé, pendant 30 ans, 40 ans même. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais quand je descends un film, je ne pense même pas à tout le boulot qui a été fait derrière, au malheureux réalisateur qui va en pleurer de rage quand il va lire la critique. Je trouve que c'est beaucoup trop facile de se moquer d'un film, et alors qu'on n'est pas du métier, et qu'on est tranquillos derrière son traitement de texte, à s'amuser à descendre. C'est trop facile pour moi, la critique. Donc le ton du bouquin, d'ailleurs, n'est pas méchant du tout. Il est plutôt rempli d'humour, on va dire. Comme l'a signalé d'ailleurs un de mes confrères de Starfix, Frédéric Albert Lévy, il met plutôt à l'honneur ce type de cinéma plutôt que de le descendre en méchamment.
Kevin Bertrand-Collette, vous affirmez que vous avez fait ce livre pour partager des œuvres que vous aimez, hein, faire découvrir un cinéma un peu autre, un peu décalé. Et justement, le travail de critique, c'est pas de descendre des films, c'est de mettre en avant des œuvres qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une promotion qui pourrait leur permettre de trouver leur public.
C'est matière à débat. Je ne sais pas si vous avez lu des critiques des films de Jean Rollin parus dans Positif. C'est quand même assez nihiliste. Je veux dire, pour eux, c'est même pas un réalisateur de cinéma. Et encore une fois, je qualifie vraiment cette attitude de vraiment très franco-française. Dans la presse anglaise, dans la presse américaine, tout ce que j'ai pu lire, c'est beaucoup plus neutre. Et les critiques ne se permettent jamais de descendre méchamment un film. Je veux dire, ils trouvent toujours quelque chose à dire. À la limite, ça peut être, oui, bon, mais finalement, l'affiche est pas mal, le film est loupé, mais il y a quand même l'affiche qui est là. Bon, ben voilà. En France, on est méchant. Je ne dis pas que ça soit général comme attitude, mais je trouve encore une fois qu'il y a un caractère hautain chez certaines personnes, dans certains titres ou certaines émissions, qui, moi, me déplaît souverainement. Je veux dire, un critique, c'est un cinéaste raté. C'est-à-dire, il n'a pas fait d'école de cinéma, il se contente d'aller voir des films. De quel droit est-ce qu'il pourrait se permettre de s'ériger en Dieu le Père et de décider quel film est bon et quel film est mauvais? Enfin voilà, honnêtement, je trouve que la profession de critique, qui a tendance d'ailleurs à disparaître un peu depuis l'arrivée des réseaux sociaux et compagnie, elle me paraît de plus en plus inutile. Voilà, vous avez ma définition de la chose.
Oui, mais justement, le fait, normalement, un critique, c'est un travail de passeur.
En théorie, oui. En théorie. Encore faut-il avoir le bagage intellectuel nécessaire aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Même à mon époque, si je puis dire, puisque moi, j'ai connu les derniers feux du fanzina version papier. J'avais des copains. Quand il y avait 10 fautes d'orthographe sur 2 phrases dans leur canard, c'était quand même un peu dur à lire. Donc, effectivement, ça nécessite quand même, ça nécessite une certaine culture. Ça, il ne faut pas le nier. Mais ça, à mon avis, ça n'est quand même pas égal à avoir une attitude de supériorité intégrale par rapport au vulgus pecum, si j'ose dire. Voilà, je suis extrêmement remonté, encore une fois, contre les gens qui se permettent de critiquer simplement pour faire du mal. Je citerai bien un de mes collègues qui est spécialisé là-dedans, mais j'ose pas, mais bon, ben voilà, c'est... qui en a fait son fonds de commerce, on va dire, qui est connu pour ça, à tel point d'ailleurs qu'on l'invite de moins en moins dans les projets de presse, parce que les distributeurs ont peur de ses réactions. Mais je vois pas l'intérêt de démolir... c'est pas constructif, voilà, c'est tout. De démolir un film, je trouve pas ça amusant.
Quand on regarde le sommaire de Bits et Châtiments, vous dites que vous défendez des petits films qui n'avaient pas forcément les moyens de leurs ambitions, mais on y trouve quand même, par exemple, Lone Ranger ou Heaven's Gate de Michael Cimino, qui pour moi est un chef-d'œuvre.
J'allais y venir, tout à fait. Alors là, c'est un autre critère de sélection, parce que c'est un de ceux que j'ai appliqué effectivement à toute la série de films dont je traite, c'est le côté rentabilité. Et pour Heaven's Gate, je suis désolé, mais c'est quand même resté un monumental bid financier pour la United Artists qui a coulé à cause de ce film. Et c'est uniquement pour ça que je l'ai inclus. Et beaucoup de gens, effectivement, me l'ont fait remarquer en disant « Mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu des séries Z italiennes ?» Ben, elle a dit, ben, c'est juste une question d'entrée en salle et de rapport qualité-prix. Quoi. Voilà, je ne me rappelle plus quel était le producteur qui était derrière, mais le malheureux, il a dû morfler avec ce qui est arrivé avec ce film, qu'encore une fois, j'aime beaucoup. Mais il faut dire aussi, alors, ce qui m'intéresse aussi dans ce monde du cinéma et de la distribution, c'est que ça reste très aléatoire. Je veux dire, malgré tous les calculs savants auxquels peuvent se livrer un producteur et un distributeur, il y a toujours un élément X qu'on ne connaît pas qui fera que le public viendra ou ne viendra pas. On peut l'inonder de promos avec des clips, des extraits, tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Miraculeusement, du jour au lendemain, on arrive à savoir que le film est mauvais et personne n'y va. Mais ça se passe en 48 heures, à tout casser. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une justice quelque part et qu'on n'arrive pas à trouver la recette parfaite pour faire un film qui rapportera du pognon immédiatement. Ça n'existe pas. Et c'est aussi ce côté-là qui me plaît, clairement, puisque ça reste... bon, c'est une industrie, mais qui a quand même un côté artisanal par ce côté-là. Voilà, tout simplement.
Vous écoutez Kevin Bertrand Colette, auteur de Bide et Châtiment, paru chez Inis Éditions, au micro de Culture Prohibée.
Comment écrire sur des films qu'on aime bien, qui ne sont pas forcément super bien, en y mettant de l'humour, mais alors sans être condescendant?
Bah c'est pas facile, pour être tout à fait honnête. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'ai fait mes armes à Bad Movies où on avait une liberté totale dans l'écriture des critiques que nous demandait Jean-Pierre Putters. Alors parenthèse d'ailleurs, j'en ai appris plus en écrivant pour Mad Movies qu'en étant à ma fac de cinéma où j'avais choisi, normalement je devais faire un diplôme qui s'appelait le DERCAV, qui était diplôme d'études et de recherche cinématographique et audiovisuelle, pour lequel on nous projetait des vieux films des années 40 noir et blanc qui m'endormaient, enfin j'arrivais pas à suivre, et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué, je suis allé taper à la porte de Putters. Donc c'est une question d'état d'esprit, c'est tout, encore une fois, c'est le fait de rester ouvert à toute forme de type de cinéma et d'une, et ne pas se braquer sur des détails techniques qui peuvent effectivement parfois faire hurler de rire. Je veux dire, quand un cadre est mal foutu, quand on voit un cascadeur qui se relève dans un plan alors qu'il était censé être mort, il faut faire abstraction de ce genre de choses, parce qu'effectivement, sinon on va se dire, bon, c'est une catastrophe, il n'y a rien à sauver. Pour moi, il y a toujours quelque chose à sauver dans n'importe quel type de film.
On trouve aussi d'autres films qui peuvent surprendre. Je pense à L'avion de l'apocalypse de Umberto Lenzi, qui est un réalisateur très apprécié des cinéphiles. Mais il n'y a pas Bruno Mattei.
Non, ben je ne pouvais pas mettre les deux, parce qu'à mon avis, ben comme vous le soulignez, c'est un peu des frères jumeaux, quelque part. C'est-à-dire, en fait, c'est ça d'ailleurs que j'aime dans le cinéma italien de ces années-là. On peut les qualifier d'opportunistes. Ce sont de très bons faiseurs, qui dès qu'apparaissait un blockbuster américain de l'autre côté de l'Atlantique, arriver à essayer de faire une copie avec 10 fois moins d'argent. Parfois ça passe, et parfois avec L'avion de l'apocalypse, malheureusement, ça passe pas. Bon, encore que c'est le type de film qu'on peut voir avec des copains le samedi soir avec une bière, qui est extrêmement rigolo. L'avion de l'apocalypse, c'est une copie du zombie de George Romero, mais avec, j'allais dire un quart, c'est même pas un quart, c'est un dixième du budget qu'avait Romero et de l'inventivité qu'avait Romero quand il a tourné Dawn of the Dead, quoi, clairement. Encore une fois, moi je ne crache pas sur le film de Lenzi. Il me fait rire plutôt qu'autre chose. Voilà, il faut le prendre au deuxième degré, quoi, clairement. Si on s'attend à voir une version italienne de zombies, non, c'est pas ça. Quoi. Enfin, c'est ou alors une très mauvaise version, mais voilà, quoi, clairement.
Là où je voulais en venir, c'est que Umberto Lenzi est un meilleur technicien que Bruno Mattei.
Oui, nous sommes d'accord. Alors je me rappelle même plus qui a écrit le scénar de L'avion de l'apocalypse. Ça se veut, si je me rappelle bien, c'est plutôt d'ailleurs une séquelle de Dawn of the Dead contre, ou une préquelle, je ne sais plus. Enfin, ça s'intercale, on va dire, dans la filmo de Romero. Mais techniquement, c'est bien tourné. Bon, à part les maquillages qui peuvent être parfois prêtés à sourire, on va dire. C'est juste que l'ambition du réalisateur est tellement réduite à ce niveau-là, enfin l'ambition créative, on va dire, que quand on connaît la version originale, enfin le modèle, on ne peut que sourire quand on voit la copie du film de Lanzi. Non, encore une fois, techniquement, il fait avec ce qu'il a. Il aurait peut-être pu, s'il avait eu un budget un peu plus conséquent, peut-être que ça aurait été meilleur. Même au niveau du choix de ses acteurs, qui ne sont pas toujours super expressifs, enfin qui ne se sentent pas toujours très motivés par les scènes qu'ils sont en train de jouer. Mais voilà, encore une fois, il faut le prendre avec un côté décalage avoué. Enfin, parce qu'au premier degré, ça ne passe pas, quoi, clairement. Voilà,
trouver un éditeur pour un livre qui recense des films décalés, un peu autres, etc. C'est compliqué ?
Très compliqué, très compliqué. Parce qu'il faut savoir, le monde de l'édition à l'heure actuelle, et celui de l'édition des bouquins de cinéma, c'est uniquement sur les blockbusters. Alors, bon, vous proposez un bouquin sur Spielberg, sur Coppola, sur George Lucas, on acceptera votre projet immédiatement. Sur Umberto Lanzi et compagnie, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant il y a un truc aussi qui entre en ligne de compte, c'est tout simplement l'âge de votre interlocuteur. Les directeurs de collection à l'heure actuelle, ce sont des jeunes youpies qui ont entre 30 et 40 ans, qui n'ont jamais entendu parler de ce type de cinéma. Je veux dire, ils ont été à la limite, bon, ils ont vu le premier Star Wars de Lucas et compagnie, mais ils n'ont jamais eu la curiosité d'aller plus en avant. Donc quand vous leur dites « oui, je vais parler d'un bouquin sur les « mauvais films » entre guillemets », tout de suite, ils poussent des cris d'orfraie, c'est la catastrophe. Moi, je crois que j'ai dû écumer une vingtaine de maisons d'édition avant de tomber sur Inis, donc, qui m'a ouvert les bras. Et d'ailleurs, auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que Inis est spécialisé sur les mangas et sur la culture japonaise, je me demande encore pourquoi ils ont accepté de sortir mon bouquin. Mais bon, bref. Donc, pour revenir à la question principale, c'est un parcours du combattant, il faut surtout ne pas se décourager. Alors que moi, bon, j'avais déjà sorti 4 bouquins sur James Bond avant, je suis quand même critique donc depuis les années 80, bah, même avec un petit bagage comme le mien, je me suis fait jeter de partout, clairement. Voilà. Y compris d'ailleurs par les chaînes télé, parce que oui, bah voilà, scoop. À la base, ce projet, je l'avais plutôt pensé comme une émission de télévision sur le mauvais cinéma. J'avais appelé ça comme ça pour essayer de le vendre. Et j'ai donc démarché auprès de différentes boîtes de prod. Je suis allé voir Canal, où j'avais bossé pendant quelques années. Je suis allé voir France Télévisions, je suis allé voir M6. Et pareil, je me suis fait jeter de partout parce que c'est pas commercial, tout simplement. Donc, voilà. Après, il faut s'accrocher, il faut croire à son projet, le remanier un petit peu, essayer de mettre un peu de paillettes. C'est pour ça que j'ai rajouté des films de Travolta, d'ailleurs, dans mon truc. Parce que voilà, les Travolta, ça va parler aux gens. Et effectivement, ça parle. Donc bon, j'aurais mis que du Lanzi et du Matteo et Mattei et compagnie. C'est sûr que c'était mort. Mais c'est compliqué, quoi, encore une fois. Et je voulais surtout pas... Alors, je voulais pas tomber dans l'auto-édition non plus. Parce que de plus en plus, ce type de niche, bah, c'est comme ça que les auteurs arrivent finalement à sortir leurs bouquins. Je suis partagé sur cette idée d'auto-éditer des bouquins. Moi, je l'ai fait en essayant de sortir un magazine quand j'étais encore au lycée. Je me suis planté, j'ai dû mettre plusieurs années à m'en remettre financièrement. L'auto-édition, le problème, c'est que personne ne vous juge. Donc, on ne sait pas, on n'a pas d'avis objectif sur le produit quand il sort. Ça peut être farci de coquilles et tout. Bon, comme c'est, on le voit pas et c'est comme ça. Donc moi, je suis toujours resté dans le circuit professionnel, entre guillemets, si j'ose dire. Mais voilà, encore une fois, ça devient de plus en plus compliqué. D'ailleurs, pour la raison principale, c'est que les gens achètent de moins en moins de bouquins. Et ça, c'est dû en grande partie à l'arrivée du digital, où tout le monde regarde ses écrans. Et acheter un bouquin, ça devient un geste assez rare, on va dire, de nos jours.
Pourtant, sur les films décalés, un peu autres, notamment le cinéma italien des années 60-70, il y a un marché, peut-être de niche, mais il y a un marché avec des films édités par plusieurs éditeurs, dont Artus Film. Donc je suis étonné que ce projet n'ait pas plus tant que ça au départ.
Vous savez à combien sont édités les films d'Artus Film ou de SC ou de Rimini ?
Pas beaucoup.
À moins de 1000 exemplaires. Voilà. Donc, je veux dire, dans un bouquin, on peut pas. Dire le coût de production, déjà, ça va bouffer la moitié du truc, donc financièrement, c'est pas possible. Donc, non, mais je suis d'accord qu'il y a une niche, mais malheureusement, ça reste une niche. Et d'ailleurs, la relève ne vient pas, c'est le constat désolant que je fais aussi, que je ne trouve pas l'équivalent de fanatiques, enfin de fans de séries Z ou de films fantastiques en 2024 par rapport à ce que moi j'avais vécu en 1979. J'ai l'impression que c'est une espèce qui n'existe plus, quoi, tout simplement. Encore une fois, parce qu'à notre époque, on a accès à tout. On tape sur Google n'importe quel type de film, on arrive à le voir dans les 24 heures, voire moins chez soi. Il y a même de là aussi la difficulté de faire venir les gens dans les salles de cinéma, puisqu'on a tout chez soi, il suffit de cliquer, on a automatiquement le machin. Il y a un changement de paradigme qui s'est produit dans la consommation des films. C'est devenu vraiment un produit de consommation courante. Et c'est ce qui me désole un petit peu aussi, quelque part. Puisque, à mon époque, j'ai l'impression d'être H Canonix quand je dis ce genre de truc. Encore une fois, moi, je faisais des recherches dans les périscopes et tout, pour écluser les salles, voir dans quel quartier il y avait tel ou tel film qui était projeté, sachant bien que j'allais voir une copie pourrie, mais j'allais voir mon film dans un écran, dans un cinéma avec un bel écran. Il y a un truc que j'arrive... Enfin, bon, tout le monde me traite de vieux réac aussi quand je dis ça. Il n'y a rien à faire. Même, j'ai une belle télé. Bon, je préfère voir un film sur un écran de cinéma. Je suis désolé. Voilà. C'est comme ça que j'ai été élevé. Alors, je fais une petite parenthèse. Ça vient peut-être aussi du fait que, quand j'étais gamin, mes parents avaient pris l'habitude... Bon, on habitait donc en province. Et mes parents louaient des extraits de films en Super 8 qui nous projetaient sur un mur le samedi soir quand on avait été bien sage pendant toute la semaine. Et c'est peut-être de là aussi que me vient ma fascination. C'est un peu cinéma paradisé, ou est-ce que je suis en train de vous raconter? Mais bon, c'est moi, il y a toujours eu un décorum pour aller voir un film, projecteur, bobine, écran. Et je suis resté scotché à ce genre de décor, quoi, tout simplement.
Mais de toute façon, un film vu à la télé sur un écran chez soi, un film vu sur un grand écran en salle de cinéma, c'est pas le même objet.
Non, c'est oui, puisque
on voit pas le même film.
Non, mais c'est clair. Mais à mon grand désespoir, c'est l'évolution actuelle fait que les gens restent de plus en plus chez eux et que on a beau bon. Alors, c'est vrai que le prix des places, ça n'incite pas toujours à aller se déplacer pour aller voir un film. Ça, je suis bien d'accord que financièrement, ça commence à faire un peu cher. Encore une fois, voilà, c'est le progrès technique qui fait que maintenant on peut regarder un film sur son écran de téléphone. Bon, ok, c'est devenu du fast-food, quoi, quelque part. Donc, mais on n'a plus. Autre anecdote, moi, voilà, qui moi m'avait beaucoup marqué. Quand j'étais en école primaire, donc avance, à la fin de l'année, on avait droit à une séance de cinéma pour toute l'école. Donc j'ai découvert les premiers Zorro version Douglas Fairbanks. Je les ai vus dans ces séances-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marrant. À l'époque, il y avait déjà la diffusion du Zorro version Disney. Donc nous autres bambins, on s'attendait à voir Guy Williams sur grand écran. On a eu Tyrone Power, qui n'avait rien à voir. Quoi. Donc on a été méchamment déçus, je raconte pas. Mais il y a ça. Bon, un des premiers films dont je me souviens avoir vu au cinéma, c'était une ressortie du 20 milieux sous les mers de Fleischer, qui m'a profondément marqué, puisque à l'heure actuelle, enfin au jour d'aujourd'hui, je suis toujours impressionné par ce film. J'ai une petite maquette du Nautilus sur mon bureau et tout ça. J'ai adoré. Ça m'a servi de marqueur, quoi, quelque part. Et je trouvais l'idée de... Encore une fois, je remercie rétrospectivement le directeur de mon école élémentaire d'avoir mis au point ce petit événement qui clôturait officiellement donc l'année scolaire en emmenant tous ces charmants bambins au cinéma. Je trouvais ça génial comme idée. Et voilà ce que ça a donné. Bon.
Kevin Bertrand-Collette, pour votre livre « Bites et châtiments », lorsque vous l'écriviez, avez-vous eu l'intention... Peut-être que cela n'a pas été possible, de justement essayer de toucher l'un des réalisateurs d'un des films que vous chroniquez afin de faire une petite interview.
C'est amusant cette question parce que figurez-vous que c'est une de mes pistes de travail pour un tome 2. Parce que c'est beaucoup plus de boulot. Enfin, encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'écrire tout seul sur un film ou sur le cinéma que d'aller chercher les gens qui l'ont fait. J'ai fait des tentatives, notamment auprès de certains Italiens. Je ne me rappelle plus de son nom. J'ai essayé de retrouver le réalisateur de Opération Frère Cadet, avec qui j'avais lié connaissance 20 ans auparavant, parce que je l'avais fait inviter sur un festival en province. On avait sympathisé, et je le trouvais génial. Sauf que, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est mort. Les droits du film, à l'heure actuelle, appartiennent à la RAI. J'essaie de les choper pour le faire sortir en Blu-ray. Opération Farcadet n'est jamais sortie en DVD officiellement, ni en Blu-ray. C'est une des meilleures copies de James Bond qu'on ait jamais faites. Et on ne peut pas le voir. Donc, bref, ça m'a beaucoup énervé. Donc, l'idée que vous soulevez, effectivement, était beaucoup plus intéressante, mais nécessitait beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de temps et un budget beaucoup plus conséquent. Précision utile, quand on signe un bouquin avec un éditeur, on a une toute petite avance. Ça ne vous permet pas non plus d'aller vous balader à Los Angeles pour aller faire des interviews et compagnie. Hein. Il faut aussi relativiser à ce niveau-là.
Je pensais surtout par rapport au net, maintenant on peut toucher aussi des gens assez facilement.
Oui, encore faut-il avoir les contacts, ce qui n'est pas toujours évident. Et comme on parle en fait de films qui datent des années 70-80 et qui avaient été tournés par des gens qui avaient déjà la cinquantaine, voire plus, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de survivants à l'heure actuelle. Donc il faut retrouver les ayants droit. C'est pas toujours facile, il faut qu'ils vous répondent. J'ai eu beaucoup de déconvenues avec les Italiens, on va dire, parce que j'en ai contacté plein. Enfin, j'ai tenté de contacter leurs distributeurs à de nombreuses reprises. Soit on m'ignorait complètement, soit on me demandait si je voulais acheter le film pour le distribuer en France, je veux dire. Donc, c'était tout de suite le côté commercial qui les intéressait. C'était même pas le fait qu'on parle d'eux dans un bouquin ou quoi que ce soit. Donc ça m'a gavé assez rapidement, je dois dire, et j'ai laissé tomber à cause de ça. J'aurais pu le faire. Enfin, j'ai pensé à le faire à un moment donné avec des réalisateurs anglais ou américains, puisque déjà je maîtrisais mieux la langue. Ça aurait peut-être été plus rapide, mais encore une fois, le bouquin aurait été totalement différent, puisque je me serais plus intéressé à la personnalité du réalisateur qu'à son œuvre, quelque part. Donc j'ai laissé tomber cette approche, mais elle sera peut-être justement réactivée dans un futur tome. On verra si ça fonctionne.
Le livre s'ouvre avec un invité et se clôt avec un autre invité. Donc Christophe Lemaire est interviewé pour clore le livre, ce qui n'est pas surprenant. Christophe Lemaire aime bien ce genre de cinéma. Mais ce qui est plus surprenant, c'est la présence de Patrice Lecomte qui signe la préface.
Eh bien, ça m'a beaucoup étonné aussi. D'ailleurs, bon, je le remercie encore énormément à cette occasion. J'adore son cinéma, Patrice Lecomte. Je trouve que c'est un des rares réalisateurs que je suis depuis le début jusqu'à l'heure actuelle. Je trouve qu'il se permet une liberté de ton, notamment quand il travaillait avec les Bronzés, qui était assez phénoménal. On ne pourrait plus faire ça à l'heure actuelle. Je veux dire, il y a des séquences dans les Bronzés qui sont mythiques, enfin cultes à l'heure actuelle, comme on dit. Et donc, grâce, encore une fois, à un ami journaliste de Starfix, j'ai obtenu ses coordonnées. On a échangé par le net pendant un certain temps, avant qu'il me juge peut-être digne de confiance, je ne sais pas. Et puis un jour, je me suis jeté à l'eau, j'ai dit, écoutez, j'ai besoin d'un nom connu pour ma préface, est-ce que vous accepteriez avec un budget zéro, hein. J'ai précisé tout de suite parce que j'avais vraiment pas assez. Et immédiatement, il m'a répondu qu'il était d'accord, et il m'a renvoyé donc cette préface qui est assez géniale, qui commence par la définition du navet, définition potagère, sur laquelle il dévie ensuite sur la définition du 7e art. Donc, et pas plus tard que ce matin, il m'a renvoyé un email, puisque je lui ai fait parvenir un exemplaire du bouquin. Et il m'a renvoyé un email qui était extrêmement laudatif, en disant qu'il s'était marré comme une baleine, qu'il le lisait petit bout par petit bout pour faire durer le plaisir, ce que je trouvais génial. Et donc voilà. Mais ceci dit, c'est les seuls contacts que j'ai eus avec lui. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle pas toutes les semaines pour prendre de nos nouvelles respectives ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un, encore une fois, à contrario de beaucoup de personnes dans le cinéma actuel français, je vais dire, qui semble relativement facile d'approche. Ou alors c'est peut-être parce que le projet l'intéressait quelque part et qu'il se sent peut-être un peu proche de ce type de cinéma. Je ne sais pas trop. Mais vraiment, il a été charmant d'un bout à l'autre. Et voilà, j'ai du mal à le croire. Je me pince encore aujourd'hui pour réaliser que j'ai réussi à choper une préface de Patrice Lecomte, dont, encore une fois, j'admire l'œuvre au plus haut point, quoi, tout simplement.
Kevin Bertrand-Collette, merci. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Bits et Châtiments, qui est publié aux éditions Inis.
Pour un prix modique. Voilà, c'est clair.
Oh my God!
Après cet entretien sympathique avec le sympathique Kevin Bertrand Collette, hein, donc pour son livre « Bides et châtiments » paru chez Inis Éditions, on va rester dans le domaine du bide et des châtiments, hein, mais cette fois-ci avec un livre gore, et même très gore, voilà, qui est en fait le troisième volume de la collection Compact Horreur, hein, de Faute de Frappe Édition. Vous savez, ces petits livres au format carré qui se glissent dans la poche, qu'on peut lire partout, qu'on peut même lire à voix haute dans les transports en commun pour pouvoir faire fuir tout le monde autour de vous, puis pouvoir allonger vos jambes dans le métro, que ça c'est bien pratique. Bon, je sais pas, après vous pouvez peut-être attirer des gens avec ça, mais là, posez-vous des questions. Alors là, le Slugs de Sean Hudson, qui est quand même, Sean Hudson, c'est pas n'importe qui. Il se présente lui-même comme un alcoolique repenti et un fan d'Iron Maiden. Donc forcément, deux qualités qui tout de suite me vont droit au cœur, hein, puisque je suis moi-même fan d'Iron Maiden, mais malheureusement, je n'ai pas cessé ma consommation d'alcool. Alors, par contre, Sean Hudson, lui, a décidé de nous proposer un ouvrage. C'est un ouvrage culte, en fait, hein. Là, c'est une nouvelle traduction. Il y a une préface inédite de Sean Hudson lui-même, préface qui est quand même assez drôle, hein, d'ailleurs. Hein. Il a l'air vraiment sympa, ce mec. Il a l'air vraiment sympa. Et donc, cet auteur britannique fort sympathique. Et là, il nous dit, hein, qu'il est dans cette préface qui c'est son premier best-seller, en fait, Slugs. Qu'il a travaillé réellement pour écrire ce livre. Il a étudié vraiment les... Parce que c'est quoi Slugs ? L'histoire est simple. Hein. C'est l'histoire de grosses limaces bien dégueu, des limaces noires qui mangent la chair humaine. Et de Mike Brady, hein, ça va vous rappeler quelque chose, hein, un petit côté dent de la mer, hein, qui doit convaincre l'ensemble de la ville, et qui doit convaincre donc le monde incrédule de la menace que représentent les limaces. Voilà, donc effectivement... Dit comme ça, les limaces, on les craint pas. Sauf que là, elles rigolent pas, les limaces. Alors, elles rentrent à l'intérieur du bide, elles rentrent sous la peau, elles vous bouffent de l'intérieur, elles sont énormes. C'est ultra dégueulasse, hein, je vous le dis comme ça. C'est vraiment très, très gore, ce livre. Et il nous raconte, du coup, que pour préparer cet ouvrage, dans cette petite préface, là, qu'il a pu constater l'existence réelle de trois espèces de limaces carnivores. Et on découvre aussi que, dans cette préface, hein, qu'il aime bien, pourtant le film, je ne le trouve pas extraordinaire, le film tiré de son bouquin, hein, de Juan Piquer-Simon, et qu'il espère que Slugs va nous divertir. Ça, j'adore, parce que Slugs peut divertir que les mecs comme Thomas, Damien et moi, hein, parce que... Mais c'est pas grave, on est nombreux, hein, à aimer ce genre de littérature. Alors évidemment, c'est ultra fun, c'est bien écrit, c'est pas du Balzac, hein, on est d'accord, c'est de la collection gore, mais c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est des page-turners, tous ces bouquins-là. Donc ça se lit tout seul, ça c'est très efficace. Et c'est quand même, alors après Wishmaster, et puis il nous promet un Amityville, là, signé David Didlo. David Didlo, qu'on va, dans l'émission, on va un peu discuter avec lui là, dans les minutes qui suivent. Eh bien, on continue cette exploration de livres qui ont été aussi adaptés au cinéma et qui sont des vrais succès de romans gore populaires. Hein, et je trouve qu'avec Sean Hudson, à travers son personnage principal et aussi l'acolyte qui va l'aider, qui est un type courageux, qui descend dans les égouts avec lui, parce que là, on parle quand même de types qui mettent les pieds dans la merde. C'est ça le fond du truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que Sean Hudson, c'est un prolo, quoi. C'est un prolo britannique et que comment il a une grande considération pour les classes laborieuses. Et ça, on sent ce côté punk, en fait, britannique très, très ancré en lui. Et on le sent dans le bouquin parce que, en fait, les gens qui dirigent la ville, les gratte-papiers, tout ça, sont vraiment des gens insupportables. Et puis, les types attaqués par les limaces, bon, voilà, c'est... Parfois, on a presque envie de dire qu'ils le méritent. Voilà. Et lui, avec ce gars-là, ce gars qui l'aide dans les égouts là, je trouve qu'ils font une belle équipe, et puis avec sa compagne il fait une belle équipe. Il y a aussi un scientifique fort sympathique dans l'ouvrage qui lui va analyser les limaces parce qu'il n'en croit pas ses yeux, tout comme nous. Voilà, donc évidemment vous l'aurez compris, ce bouquin vraiment grand guignolesque, hein, vraiment dans l'esprit du grand guignol, qui s'appelle Slugs de Sean Hudson et qui est donc paru dans la collection Compact Horreur chez Faute de Frappe Édition, bah nous vous le conseillons vivement. Nous restons hein, chez nos amis de Faute de Frappe Édition, mais pour un livre, là aussi, hein, d'un genre mal aimé, qui appartient à la culture prohibée, la pornographie. Faute de Frappe Édition, là, qui nous propose de lire le livre d'une certaine Denise Dildo, qui donc est cette Denise Dildo qui signe donc ce livre qui s'appelle Clito Vidéo. Mais où va-t-elle chercher tout cela ? Bon, Denise Dildo, de toute façon, tout le monde le sait, au moment où vous écoutez l'émission, vous avez peut-être déjà lu l'ouvrage, c'est David Dildo, qui franchit le pas, après avoir truffé ses ouvrages gore pour la collection Carnage, Sanction et Sanction 2, de scènes érotiques, et y compris son giallo littéraire Firenze Rossa, qu'il avait déjà chargé en érotisme, en pornographie, même, on peut le dire. Là, il fait le pas, dont on avait déjà échangé avec l'auteur. Hein. Je me doutais bien qu'il allait finir par faire le pas vers, justement, la pornographie. Alors là, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous raconte l'histoire d'une... On va y revenir avec lui en plus en détail, mais d'une femme qui s'appelle Barbara, qui est enseignante, un peu délaissée par son mari qui est écrivain, et qui a des fantasmes, des besoins sexuels, et des fantasmes surtout, des fantasmes qu'elle décide d'assouvir, et en particulier... en devenant actrice pour cette étrange boîte qui s'appelle Clito Vidéo. Et en parallèle à tout cela, David ressort là un nouveau numéro, parce qu'il s'est désormais quand même un peu spécialisé hein, dans la pornographie. Il explore aujourd'hui cette facette du cinéma, après avoir longtemps exploré le cinéma fantastique, le cinéma gore, qui est un cinéma qui était à l'époque mal perçu. Aujourd'hui, il s'attache à un cinéma qui est encore mal perçu, c'est-à-dire la pornographie, le fantastique étant un peu rentré dans les mœurs aujourd'hui. Donc, il s'attaque désormais à la pornographie. Et là, il revient dans ce numéro 4 des chroniques de l'Alcôve, de la revue Érotique Bazar, qu'il édite lui-même. Hein. Là, cette fois-ci, il n'a pas d'éditeur, c'est lui qui l'édite. Il revient sur une actrice qui est assez peu connue, en fait, pourtant qui a tourné pour beaucoup de réalisateurs important, mais qui est très connue en Italie parce qu'elle a même eu le droit à sa propre BD, tout ça, qui s'appelle Jessica Rizzo. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'échanger tout de suite avec David Denis, dit de l'eau, voilà. Donc tout de suite, Denise Dildo ou David Dildo ou Denise Dildo, je ne sais plus, au micro de Culture Prohibé.
Oh, appelle-moi donc David Dillot.
D'accord, ce sera plus simple. Bonjour David, alors tu es avec nous aujourd'hui, alors tu as une double actualité placée sous le signe de l'érotisme, de la pornographie, à travers alors à la fois un ouvrage qui paraît chez Faute de Frappe Édition. Moi, je pensais d'ailleurs que je pensais lire ton premier roman pornographique plutôt à la Musardine, ou voilà, mais du coup, ça veut dire peut-être que notre ami Marc Falvo va développer la publication de textes érotiques pornographiques. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, ce livre s'appelle Clito Vidéo, qui arrive chez Faute de Frappe Édition, et qui raconte donc l'histoire de Barbara Salerni, qui est enseignante, délaissée par son écrivain de mari, et qui décide de laisser libre cours à ses fantasmes, même quitte à jouer hein, dans une production de cette petite entreprise qui s'appelle Clito Vidéo. Alors déjà, moi, la première question que j'ai envie de te poser, alors d'où vient cette obsession pour le prénom Barbara ? Parce que Barbara Salerni, ne serait-ce pas une version de Barbara Lodi, mais qui respecte les lois ?
Alors, oui, effectivement, effectivement, il y a quelques lecteurs déjà qui ont lu donc le roman et qui m'ont fait effectivement la même remarque que toi, à savoir le même prénom dans les deux, dans Sanction donc, et puis dans Clito Vidéo. Écoute, l'utilisation du prénom Barbara dans Clito Vidéo, c'est un vrai clin d'œil en fait, hein, au personnage féminin que j'avais inventé pour les Sanctions, pour Sanction 1 en tout cas, et voilà, effectivement, alors c'est la version, comme tu dis, hein, la version légale, on va dire, d'une femme qui laisse libre cours à tous ses désirs. Bon, effectivement, mais c'est un clin d'œil, tu as raison. Et puis j'aime bien cette espèce de comment dire, d'assonance en A, tu vois, Barbara, hein, qui est très féminine, et en même temps, barbare, quoi. Hein, donc, si tu veux, plutôt sauvage. Et ouais, j'aime bien cette espèce de dissonance, tu vois, entre la douceur du A et puis la dureté des consonnes dans le prénom. Donc voilà, ouais, c'est effectivement. Et alors, je rebondis sur ce que tu disais, parce que tu t'attendais à trouver le roman à la Musardine. Alors figure-toi qu'au départ, hein, il était prévu effectivement pour paraître à la Musardine, mais bon, il a été décliné en fait. Hein, le roman, bon, n'a pas plu, je pense, hein. Et donc je l'ai rangé dans mon ordinateur. Et puis Marc Falvo, donc des éditions Faute de Frappe, voulait absolument le lire. Et mais je lui disais, mais écoute, ça ne correspond pas du tout à la ligne éditoriale de ta maison, quoi, hein, qui est plutôt tournée horreur, thriller, polar, comme tu le sais. Et puis ça lui a vachement plu. Et donc il a décidé de se lancer dans l'édition donc de ce roman. Voilà.
Je sais tout comme ça, voilà.
Voilà, tu vois les dessous de Clito Vidéo, si je puis dire.
Si, effectivement, j'allais dire, si je puis dire. Bah, en tout cas, bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Tu es venu plusieurs fois dans l'émission, et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je te dis que tu avais une plume pour l'érotisme, la pornographie, ça se sentait déjà même dans tes romans gore. Là, tu passes clairement le cap. Alors, je ne sais pas si après tu comptes y revenir, mais là, tu passes vraiment le cap, quoi.
Tout à fait. Alors, écoute, ça c'est, oui, moi c'est une écriture, si tu veux, qui me sied vraiment, quoi. Tu vois, en tout cas, je prends un immense plaisir à écrire, tu vois, dans ce genre. Et alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que il y a quelques lecteurs de Sanctions, par exemple, ou Sirène Zerossa, hein, qui était paru donc dans la collection Carnage, qui m'avaient dit, bon, qu'ils appréciaient beaucoup les scènes d'horreur, qu'elles étaient vomitives à souhait, que l'objectif était atteint, mais m'avait dit qu'il préférait à la limite les scènes où les scènes pornographiques, quoi, purement pornographiques ou purement érotiques. Et ça m'a interpellé. Et moi, comme je prenais du plaisir déjà à mettre en scène ce genre de séquences, quoi, tu vois, de personnages, d'actions, eh bien, j'ai décidé effectivement de publier un roman purement pornographique, tu vois, sans la dimension gore, sans la dimension sadique, voilà, un roman de pur plaisir, quoi, hein, effectivement, ouais. Et je préfère presque, tu vois, écrire de l'érotisme, on va dire, de la pornographie, que de l'horreur, maintenant, effectivement. Alors, ça peut changer, hein, mais actuellement, je suis plutôt dans ce trip-là, ouais.
Et tu décris, là, alors, c'est pour ça qu'on peut faire le lien avec le Chronique de l'alcôve, l'érotique bazar numéro 4, consacré à Jessica Rizzo, dont on va développer un peu ensuite, mais tu décris, oui, avec ce personnage de Barbara Salerni. Alors évidemment, il y a des références, hein, Salerni, il y en a d'autres de références dans le livre, mais ça, je vais laisser les lecteurs les découvrir, d'autant plus que tu expliques un peu à la fin, hein, les prénoms, les noms employés, tu expliques tes références. Mais ce que tu, en tout cas, moi, ce que je vois, ce qui est, alors même dans tes ouvrages gore d'ailleurs, tu présentes, là c'est des femmes, des personnages, mais même dans les actrices qui t'intéressent comme Jessica Rizzo, tu parles de personnes qui, et des femmes là surtout, qui ont une sexualité quand même hors norme par rapport à la sexualité qui serait acceptable dans la société, quoi. Voilà, c'est qu'il y a quand même un point commun, il y a un lien entre tes personnages et y compris donc les actrices dont tu parles, les personnes dont tu parles dans tes ouvrages quand tu abordes aussi le cinéma érotique et pornographique.
Alors, tout à fait. Non, non, mais ça, j'en conviens. Bon, alors, il y a une dimension, si tu veux, comment, surtout dans la fiction, il y a une dimension évidemment romanesque, hein, bon, où bon, le trait est très souligné. Bon, il y a presque une dimension, je vais pas dire caricaturale, mais enfin, bon, bon très hyperbolique, tu vois, dans la sexualité, bon, que je décris, que j'évoque, c'est vrai. Mais en même temps, si tu veux, ça m'intéresse surtout dans la période actuelle, c'est que, comment dire, on est tellement brisé bon, par une espèce de conjonction hein, des puritanismes à l'heure actuelle, hein, qui peuvent venir, tu vois, aussi bien des religions que des idéologies, on va dire, laïques, tu vois, qu'elles soient de droite ou de gauche, que moi, ça m'intéresse, si tu veux, de ruer un peu dans les brancards et de rappeler qu'on est quand même, vous voyez, des animaux, quoi, hein, des animaux, pas seulement, mais qu'on est aussi ça. Bon. Et donc, si tu veux, c'est ce qui m'intéresse, si tu veux, de d'écrire, d'évoquer, oui, bah, la pulsion qui se lâche, quoi, hein, le désir qui va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ça me semble être presque un acte, alors pas militant, parce que bon, on n'en est pas là, mais enfin, bon, voilà, hein, une femme très attirée par un homme, des hommes, hein, et qui en parle librement et qui le fait librement, si tu veux, je trouve ça presque, enfin. Je sais pas, mais j'ai l'impression parfois de d'ailleurs on m'en a fait le reproche de franchir des barrières qui aujourd'hui ne seraient plus franchissables, tu vois. Bon, et donc voilà, ça m'intéresse aussi dans ce sens-là. Hein, alors c'est pas militant, c'est pas une écriture militante ou politique, mais enfin aujourd'hui ça deviendrait presque. Hein, bon, moi je sais que je me suis fait par exemple sur certains réseaux sociaux attaquer parce que je dépassais certaines frontières quand je parlais des femmes, etc. Tu vois, donc bon, moi, plus on m'emmerdera là-dessus, plus je continuerai, quoi, hein, c'est évident. Hein. Donc voilà, hein, y a aussi, tu vois, dans mon écriture, cette dimension-là, j'avoue.
Ouais. Et puis de toute façon, et qu'on retrouve hein, sur les personnages un peu bigger than life, et puis que tu décris, bon là, le personnage de Barbara, elle décide enfin plutôt de franchir cette barrière. Après, là, l'actrice dont tu nous parles, Jessica Rizzo, qui est quand même une quasi inconnue, même si elle a tourné pour Gérard Damiano, la histoire de Devilin Miss Jones, ou pour Mario Salieri, voilà, grande star des réalisateurs de porno italien, de porno classieux, qui a fait un Dracula, je me rappelle, enfin qui a fait plein d'autres choses. Elle reste inconnue, donc là tu retournes avec cet érotique bazar, ce chronique de l'alcôve, la numéro 4, qui fait un bon doublon, en fait, avec ce Clito Vidéo paru chez Faute de Frappe. Tu vas vers cette Jessica Rizzo qui est une, quand même, là, pour le coup, une inconnue, même pour, je pense, beaucoup de cinéphiles.
Alors, tu as tout à fait raison. Alors, une inconnue en France. Hein, une inconnue en France. Parce que si tu veux, malheureusement, alors elle a tourné en France, hein, elle a tourné quelques films en France aux alentours en 1995, bon, pour des réalisateurs comme Ralph Scott, bon voilà. Mais si tu veux, c'était une méga star en Italie. Hein, c'était une méga star en Italie qui, si tu veux, qui, comment dire, tenait largement, comment dire, tenait largement tête à une Cicciolina ou à une Moana Pozzi. Bon, en plus, Moana Pozzi elle est morte assez vite. Bon, voilà. Et on l'a vue comme une, comment dire, comme une successeur, si j'ose dire, de Moana Pozzi. C'était une méga star. Hein, elle vendait des dizaines de milliers de cassettes, de magazines. Elle a établi un véritable empire du sexe, si tu veux, en Italie. Hein, elle a été, alors, actrice, mais elle a été productrice. Elle a distribué avec son mari ses films. Elle a fait dans le gadget érotique, si tu veux, dans l'accessoire. Elle a fait dans le parfum. Elle a fait, si tu veux, dans le téléphone. Alors, c'était très à la mode, le téléphone rose, tu vois. Elle a ouvert des clubs. Enfin, bref, c'était une méga star. C'était d'ailleurs la Pio Amata degli Italiani, comme on disait, hein, tu vois, la signora, la Pio Amata degli Italiani, la femme la plus aimée des Italiens, sondage à l'appui. Hein. Donc, si tu veux, elle n'a pas franchi, hein, sa notoriété n'a pas franchi, si tu veux, nos frontières, c'est vrai, tu vois, hein, c'est vrai. Bon, il y a eu très peu d'articles, en fait, qui sont parus, hein, qui sont parus chez nous sur elle, hein, bon, je pense notamment à Hot Video, tu vois, bon, il y a eu très peu de choses sur elle, mais en Italie, c'est une méga star. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une people en Italie, si tu veux.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard. Un petit coup de main de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, à la technique. And the last but not the least pour l'architecture sonore de l'ensemble, Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.